Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui le troisième mystère glorieux de notre rosaire, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Commençons par le récit des événements. Dociles à l'ordre de leur maître, les apôtres étaient en retraite dans le Cénacle depuis l'Ascension. On lit dans les Actes des apôtres que tous persévéraient unanimement dans la prière avec les saintes femmes et Marie, mère de Jésus. Cela faisait environ quand même à peu près 120 personnes. Enfin, le dixième jour parut. C'était le 50e depuis la résurrection du Sauveur. Et c'était en ce jour la fête de la Pentecôte juive qui commémorait la remise du décalogue à Moïse sur le mont Sinaï. Tout à coup, à la troisième heure, c'est-à-dire à 9h du matin, un bruit sonore comme celui d'un vent violent partit du ciel, retentit dans les airs et remplit toute la maison. Aussitôt des langues apparurent, semblables à du feu, s'étant divisées à partir d'un foyer unique, et elles vinrent se poser sur la tête de chacun, de la Vierge Marie d'abord, puis de tous les assistants. Et les Actes des apôtres continuent en disant « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. » Examinons les symboles. Un souffle. L'Esprit Saint est en effet comme un vent impétueux qui vient renouveler la face de la terre. Des langues. C'est le symbole de la prédication des apôtres, qui seront maintenant les témoins de la résurrection du Christ jusqu'aux extrémités du monde. Et ce sont des langues de feu pour indiquer que la parole des apôtres allumera dans tout l'univers le feu de la charité. Le bruit de ce vent violent s'était répandu dans tout Jérusalem à l'heure où la foule des Juifs, sortant du temple après le sacrifice du matin, encombrait les rues de la ville. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit s'était manifesté à cette heure-là. Il voulut offrir aux apôtres un immense auditoire pour leur première prédication. On s'attroupa autour de la maison. Alors Pierre et les disciples sortirent sur le seuil. Ils n'étaient plus ces hommes timides qui, après la Passion, s'étaient enfermés dans le Cénacle par peur des Juifs. Le Saint-Esprit les avait entièrement transformés. Ils étaient pleins de la science divine et animés d'une force invincible qui les fera prêcher dans le monde entier jusqu'aux martyrs. Et tous furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Puis, lit-on dans les Actes des apôtres, Pierre prit la parole. « Hommes juifs, dit-il, vous avez fait mourir Jésus de Nazareth. Faites pénitence et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. » On aimerait que l'actuel successeur de Pierre ait le même langage que Pierre. Le résultat d'une telle prédication, c'est qu'en ce jour, 3000 juifs demandèrent le baptême et entrèrent dans l'église. Le lendemain, Saint-Pierre ayant guéri un boiteux à la porte du temple, c'est 5000 autres juifs qui se convertirent. Bien sûr, c'est le vendredi saint que l'église était née sur le calvaire, lorsque le centurion ouvrit de sa lance le côté de Jésus et qu'il en sortit l'eau et le sang qui figuraient les sacrements, en particulier le baptême et l'Eucharistie. Mais en ce jour de la Pentecôte, Pierre, le premier pape, ouvrait toutes grandes les portes de l'Église aux âmes de bonne volonté qui voulaient y entrer pour être sauvées. Voyons maintenant ce que l'Église nous enseigne sur le Saint-Esprit. Nous nous servirons de l'encyclique Divinum Illude, écrite par le pape Léon XIII le 9 mai 1897, et qui résume tout l'enseignement du magistère sur cette question. Le pape commence par rappeler que si notre Seigneur a eu pour mission de réparer par son sacrifice l'offense infinie causée à Dieu par nos péchés, et par là de mériter le salut de tous ceux qui croiraient en lui et qui feraient pénitence. C'est au Saint-Esprit que notre Seigneur a confié le soin de couronner l'œuvre qu'il a reçue du Père. Bien sûr, tout ce que nous allons dire de l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans nos âmes, tout cela est commun aux trois personnes de la Sainte Trinité. Les actions à l'extérieur de Dieu sont en effet produites par la nature divine. Or, cette nature divine est commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puisqu'en Dieu, il y a une seule nature et trois personnes. Les actions du Saint-Esprit à l'extérieur de Dieu sont donc en même temps des actions du Père et du Fils. Alors, pourquoi parler spécialement du Saint-Esprit, puisque tout cela est commun aux trois ? Eh bien, pour nous faire comprendre que l'intervention de Dieu dans l'Église et dans nos âmes, c'est une manifestation de son amour, le Saint-Esprit étant dans la Trinité l'amour du Père et du Fils. Et la première manifestation de l'amour du Saint-Esprit pour les hommes, c'est d'assister l'Église pour qu'elle transmette l'enseignement de notre Seigneur sans erreur jusqu'à la fin des temps. Puisqu'en effet, la première étape pour que les hommes soient sauvés, c'est qu'ils croient à cet enseignement. Le Saint-Esprit est ici l'esprit de vérité. Et l'on peut dire que l'Église, les papes, les conciles ont accompli cette mission jusqu'au dernier concile Vatican II, exclu. Et ceci, ce que nous disons, n'est pas mis en cause non plus par la crise actuelle dans l'Église. Le Saint-Esprit, sachant les grands troubles qui secouraient l'Église au XXe et XXIe siècle, a justement inspiré au Concile Vatican I de préciser à quel signe on reconnaîtrait que les hommes d'Église parleraient au nom de Dieu ou non. Le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre, dit le Concile, pour que par sa révélation, ils enseignent une nouvelle doctrine, mais pour que par son assistance, ils gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise aux apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Si donc par malheur les hommes d'Église se mettent à prêcher une doctrine nouvelle, en rupture avec ce qui a été transmis jusqu'ici par l'Église, on sait que cela ne vient pas du Saint-Esprit, donc nous n'avons pas à être troublés. Et il faut nous attacher à ce que l'Église a toujours enseigné, tout simplement. Mais le Saint-Esprit n'a pas seulement pour rôle d'assister l'Église pour qu'elle transmette sans erreur le dépôt de la foi avec son assistance. C'est lui aussi, continue le pape, qui au cours des siècles a conféré à certains hommes, évêques et prêtres, le pouvoir de gouverner l'Église et de communiquer la grâce de notre Seigneur par les sacrements. Si le Christ est la tête de l'Église, on peut donc dire ici que le Saint-Esprit en est l'âme. Puisque comme l'âme fait vivre notre corps et le dirige, c'est le Saint-Esprit qui dirige et fait vivre l'Église. À condition toujours que ses évêques et ses prêtres ne lui résistent pas, et hélas, lorsqu'ils lui résistent, eh bien c'est l'histoire de toutes les hérésies et de tous les schismes. Mais le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans la hiérarchie de l'Église, il veut agir dans l'âme de chaque fidèle, et c'est l'Évangile d'aujourd'hui. C'est l'une des richesses les plus importantes du christianisme, que le Saint-Esprit habite dans l'âme des justes, dans l'âme de ceux qu'il a rendus amis de Dieu en détruisant leurs péchés par l'infusion de la grâce sanctifiante. Et ainsi nous participons à la nature divine, nous devenons fils adoptifs de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé ici par saint Paul l'esprit d'adoption. C'est au jour de notre baptême que nous avons reçu le Saint-Esprit pour la première fois, lorsqu'il nous a lavés de la tache du péché originel. Nous l'avons reçu ensuite par nos prières et par les autres sacrements. Mais c'est surtout depuis notre confirmation qu'il est en nous d'une façon plus abondante pour assurer la fermeté et la vigueur de la vie chrétienne, dit Léon XIII, spécialement pour nous permettre de vaincre les tentations du monde. C'est que le sacrement de confirmation imprime dans notre âme un signe spirituel qu'on appelle un caractère et qui nous donne droit à recevoir du Saint-Esprit tous les secours dont nous avons besoin pour les combats spirituels de cette terre. C'est au Saint-Esprit, ici, qu'il faut attribuer les triomphes des vierges et des martyrs. Voyons maintenant nos devoirs envers le Saint-Esprit, puisque Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous, dit saint Augustin. Nous en verrons trois. Garder le Saint-Esprit dans notre âme, vivre de cette présence du Saint-Esprit en nous, et enfin, prier le Saint-Esprit. Notre premier devoir est d'abord de garder le Saint-Esprit dans notre âme, bien sûr, en évitant le péché mortel. Redisons-nous bien que cette présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu dans les âmes en état de grâce, c'est notre plus grand trésor. Est-ce que nous pouvons avoir plus grande chose en nous que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui maintient ce monde dans l'existence, qui nous maintient chaque jour dans l'existence, qui est notre sauveur, qui est le but de notre vie? Il est là en nous. Et est-ce que ce n'est pas la plus grande légèreté que risquer de perdre ce trésor par des imprudences coupables sur Internet, par exemple? À ce moment-là, pensons aux premiers chrétiens qui étaient prêts à mourir sous la dent des lions plutôt que de se séparer de notre Seigneur. Évidemment, il ne suffit pas de ne pas pécher. Il faut vivre de cette présence du Saint-Esprit en notre âme, spécialement en étant docile à son action. Lorsque l'âme est en état de grâce, elle possède ce que l'on appelle les dons du Saint-Esprit, qui sont en notre âme des capacités à être mue, à être dirigée par le Saint-Esprit, à recevoir de lui les lumières et les forces dont nous avons besoin pour marcher vers le ciel et qui peuvent nous aider en toutes circonstances de la vie. Ce qui fait que lorsque nous tombons, c'est toujours de notre faute, bien sûr. C'est parce que nous nous sommes trop appuyés sur nos propres forces. Nous avons en nous la puissance infinie de Dieu, la force infinie de Dieu, et nous n'y avons pas pensé, nous ne sommes pas appuyés sur lui, et nous tombons, bien sûr. C'est pourquoi saint Paul nous dit ici « Nolite contristare spiritum », ne contristez pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un tombe par faiblesse ou ignorance, dit Léon XIII, il aura peut-être une excuse aux yeux de Dieu. Mais celui qui résiste obstinément au Saint-Esprit, celui-là, Dieu risque de finir par s'éloigner de lui et le laisser aller à la dérive dans une vie de péché. Ou, continue le pape, aveuglé par un juste châtiment de Dieu, il regardera vrai ce qui est faux. Lorsqu'on vit dans l'immoralité par obstination, on finit par perdre la vérité, par perdre la foi. Et le pape de citer saint Paul, disant que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi, s'attachant à l'esprit d'erreur et aux doctrines diaboliques. Et n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, hélas, dans notre pauvre monde? Alors, pour nous préserver de ce malheur dans lequel tombent tant d'hommes aujourd'hui, le pape nous exhorte à prier le Saint-Esprit. Comment le prier? Eh bien, ouvrez vos missels et vous y trouverez ces textes magnifiques que l'Église a mis dans sa liturgie. Cette séquence de la Pentecôte, « Veni Sancte Spiritus » que nous venons de chanter, ou encore ce « Veni Creator » que nous avons chanté avant-hier. Dans ces prières se trouve tout ce que nous pouvons demander à l'Esprit-Saint pour avancer sans encombre vers le ciel, pour surmonter toutes les épreuves et les difficultés de la vie. Nous pourrions les apprendre par cœur, ces textes. Enfin, pour nous aider à recevoir une présence et une action du Saint-Esprit encore plus grande dans notre âme, Léon XIII nous invite à nous tourner vers la très sainte Vierge Marie, dont la prière a contribué à la descente du Saint-Esprit sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Demandons à la très sainte Vierge au cours de cette messe qu'elle perfectionne nos pauvres prières afin que l'Esprit-Saint prenne toujours plus possession de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.